Bonjour les filles, j'espère que tout le monde va bien. Alors Bezrat Hashem, dans quelques jours, on va célébrer la fête de la liberté par excellence, la fête de la libération, la fête de tous les miracles. Et j'espère Bezrat Hashem qu'on va aussi fêter la fête de la grande délivrance, de la grande Géoula finale. Sachez juste que jusqu'à présent, notre référence en termes de miracles extraordinaire de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, c'est la sortie d'Égypte avec bien sûr les 10 plaies, avec bien sûr la sortie d'Égypte en elle-même, l'ouverture de la mer Rouge et la fermeture de la mer Rouge, parce que ça aussi, c'est un miracle. La traversée du désert, la traversée pendant 40 ans dans le désert avec la manne, les nuées de gloire. Tout ça, ça a été vraiment, on va dire, la première fois que Akadosh Baruch Hu montrait au peuple d'Israël et au monde entier l'étendue de ses pouvoirs, de ses capacités. Donc, Bezrat Hashem, sachez que lors de la Géoula finale qu'on espère très très proche, c'est Berachamim Gdolim, on dit que les miracles auxquels on va assister seront 50 fois plus importants que ceux de la sortie d'Égypte et qu'on aura honte, entre guillemets, de raconter la sortie d'Égypte parce qu'on va dire, attends, tu me parles de sauterelles, tu me parles de bêtes féroces, mais est-ce que tu as conscience de ce qu'on est en train de vivre actuellement? C'est incroyable. Bezrat Hashem, qu'on puisse tous y assister très, 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 très rapidement avec une grande rachamim, Bezrat Hashem. Donc, la sortie d'Égypte, ça commence comme ça. Ça commence quand Yosef s'est dévoilé à ses frères. Il était devenu vice-roi d'Égypte. Et il envoie un message à Yaakov qui était en Eretz Kenaan, donc Eretz Israël de maintenant. Et il lui dit, voilà, que grâce à ses conseils judicieux, l'Égypte a réussi à passer entre les mailles du filet de la famine et qu'il pouvait descendre en Égypte, le rejoindre. Alors, il y a 69 personnes qui ont quitté la terre de Canaan avec Yaakov et il y a 70 personnes qui sont rentrées en Égypte. Comment c'est possible? Ben, tout simplement, il y avait parmi les 69 personnes une femme, la femme de Lévi, le fils de Yaakov, qui était enceinte. Et dès qu'ils ont passé à la frontière de l'Égypte, vraiment entre l'Égypte et la terre de Canaan, elle a donné naissance à une petite fille qui s'appelle Yocheved. Donc Yocheved, c'est très 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 dans les mondes kabbalistiques. J'avais écouté un shiur du Rav Switou un jour très 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 extraordinaire. La force de Yocheved qui contrebalance la force négative de la reine des démons qui a une influence sur l'Égypte, qui avait en tout cas une influence sur l'Égypte, pour vous dire la puissance de la Neshama de Yocheved, qui bien évidemment va donner naissance à Moshe Rabbeinu. Donc on pense bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi une Neshama très très particulière. Donc on a les 70 personnes maintenant qui sont arrivées en Égypte et qui arrivent dans la terre de Goshen. Donc, jusqu'à la mort de tous les fils de Yaakov, donc tous les frères de Yosef, les Bnei Israël avaient une vie, on va dire, normale en Mitzrayim, en Égypte. Le Pharaon leur avait alloué la terre de Goshen, donc les Léviim particulièrement, donc la tribu de Lévi, la tribu de Moshe Rabbeinu, ils habitaient là-bas. Mais voilà que quand tous les frères de Yosef sont partis, on dit Vayavo Melech Hadash, Vayakam, Vayakom Melech Hadash, pardon, s'est levé un nouveau roi. Alors, il y en a qui disent que c'est vraiment un nouveau roi, que le roi de l'époque de Yosef, il est mort et qu'il y a un nouveau pharaon qui était au pouvoir. Et il y en a qui disent que c'était le même et que quand tous les frères de Yosef et Yosef, ils sont morts, eh bien, il a tombé le masque et il a dévoilé sa véritable personnalité, un antisémite notoire. Mais bon, on connaît les antisémites. Ce n'est pas ce qui manque dans le monde. Et du coup, en fait, il a commencé par ruse. Les Béné Israël, ils étaient, on va dire, intégrés en Eretz Mitzrayim. Et il a décidé de construire, il a eu la folie des grandeurs, notre pharaon, il a décidé de construire des villes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il est venu lui-même et il a commencé à mettre des briques, à construire des briques, et à faire ci, à faire ça. Et les Bnei Israël, au grand cœur, ils ont dit à Pharaon, mais qu'est-ce que tu fais? Alors ils ont dit, ben voilà, j'ai envie de construire, d'agrandir le pays, de construire des villes, Pitom et Ramsès, en l'occurrence. Alors les Bnei Israël, ils ont dit, bah attends, on va t'aider. On est des citoyens de ton pays, on va participer, et comme ça, on va t'aider. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Bon, je le fais un petit peu en simplifié. Et c'est comme ça que les Bnei Israël ont commencé à travailler. Donc le premier mois, ils ont tous eu un salaire. À partir du deuxième mois, Paro, il leur a dit, écoutez, à partir de maintenant, vous êtes mes esclaves et vous allez devenir, vous allez travailler sans avoir un salaire. Et c'est comme ça que l'esclavage a commencé. Donc, les années passent. Alors, on dit que en Égypte, leur présence a duré 210 ans. En Égypte, alors, Hachem avait dit à Abraham que ses enfants allaient être étrangers sur une terre qui n'était pas la leur pendant 400 ans. Mais Hachem a eu pitié dans sa grande miséricorde. On compte les 400 ans à partir de la naissance de Yitzhak. Donc de la naissance de Yitzhak jusqu'à ce qu'il soit descendu en Égypte, il y a eu 190 ans. Et ils sont restés 210 ans en Égypte. Et dans les 210 ans, il y a eu 86 ans de gros esclavage. Vraiment, la grande souffrance, comme on en parle dans la Haggadah. Donc, on arrive, Yocheved qui grandit, donc qui est la fille de Lévi, qui se marie avec Amram, qui est son neveu. Alors, bien évidemment, en 2024 de l'ère vulgaire, c'est interdit de se marier avec son neveu. Un oncle a le droit de se marier avec sa nièce, mais une tante n'a pas le droit de se marier avec son neveu. Mais on était avant le don de la Torah. Donc avant le don de la Torah, ils n'étaient pas assujettis, bien qu'ils connaissaient la Torah, ils n'étaient pas assujettis aux mitzvot. Ce n'était pas une avéra. Donc elle était mariée avec son neveu Amram, qui était le gadolador de la génération. Ils se marient, ils ont deux enfants, Myriam et Aaron, et qui grandissent, tant bien que mal, dans cette ambiance très, très, très dure. Pharaon, qui de plus en plus endurcit son cœur, il voit que les Bnei Israël, il voit quand même que chaque bonne femme qui tombe enceinte, elle accouche six enfants. Il se dit, non mais à ce rythme-là, dans quelques années, il va y avoir beaucoup plus de Bnei Israël que d'Égyptiens. Ils vont nous envahir. Petite parenthèse personnelle, on voit le parallèle avec la France, le reste du monde. Les Arabes y font six gosses, les Français en font un et demi avec trois chiens. Ils ont eu la France par le ventre, tout simplement. C'est pas nouveau. Sans se battre, hein. Ça veut dire la France est tombée sans se battre. Bref, pour revenir à nos moutons, donc ils décident d'établir un décret de jeter tous les enfants mâles dans le Nil. Il avait reçu par prophétie, enfin par prophétie non, les mages qui étaient très très puissants. L'Égypte était une terre imprégnée, tellement imprégnée de magie noire que, genre, on dit dans les Midrashim que Paro avait une armée de démons à son pouvoir, quoi, entre les mains. C'était la magie noire, tout ce qui était les forces du mal au maximum, concentré en Égypte. Donc, un de ces mages lui avait dit que les Bnei Israël allaient être délivrés par un garçon, un enfant mâle. Un garçon de, voilà, des Bnei Israël. Donc, tiens, ni plus ni moins, on va faire jeter dans le Nil tous les garçons qui vont naître. Donc, regardez jusqu'où ils allaient, comment ils se sont rendus compte quand est-ce qu'ils allaient naître celui-là ou pas celui-là. Ils surveillaient quand la femme, elle allait au mikvé. Et il comptait 9 mois. 9 mois après, il savait qu'il allait avoir une naissance et que ça allait être une chance sur deux que ça soit un petit garçon. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'il les jetait dans le Nil. Et Yocheved et Amram, ils font partie aussi de ce danger. Qu'est-ce qu'il fait Amram? Il décide, vous savez quoi? On va tous divorcer de notre femme. Comme ça. Non, pardon, il décide lui-même de divorcer de sa femme Yocheved, mais bon, comme c'est le gadolador, il allait bien se douter que tout le monde allait suivre son exemple. Il décide de divorcer de Yocheved en disant, puisque si on va pas ensemble, il y a pas de bébé. S'il y a pas de bébé, il y a pas de garçon mâle. S'il y a pas de, enfin, de garçon, s'il y a pas de garçon, il y aura plus de bébé jeté dans le Nil. Alors Myriam, donc qui avait dans les entre 8 et 13 ans, je sais plus exactement, elle va voir son père, elle lui dit: sache que ton décret est plus dur que Paro. Quoi? Mais pourquoi? Alors elle lui dit: parce que toi, Paro, il décide de jeter à la, de supprimer tous les garçons. Mais toi, avec ton décret, en empêchant le mariage, en empêchant que les enfants viennent au monde, tu empêches les garçons et les filles de venir sur terre. Et Hachem, il a ses comptes. Celui qui doit venir, il doit venir. C'est pas à nous de nous mêler. Amram, il regarde sa fille, lui dit: tu as raison, ma fille. Il a compris que sa fille Myriam c'était une prophétesse et que c'était une échama très particulière aussi. Donc il décide de se remarier avec Yocheved, qui tombe enceinte. Alors elle tombe enceinte. Alors là commence la vie extraordinaire de Moshe. Oui, dès le début. Au bout de 6 mois, donc 3 mois avant la date prévue de l'accouchement. Elle n'était pas encore sous surveillance puisqu'ils avaient compté 6 mois, ils avaient compté pour les 9 mois. Elle accouche. Et quand elle accouche, on dit qu'il y a une grande lumière qui a envahi toute la pièce. Moshe est né circoncis, déjà. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de le prendre, de fabriquer un berceau en osier, de mettre un petit peu de... Elle a mis une matière comme de l'argile ou je ne sais plus exactement, une couverture, et elle pose Moshe à l'intérieur du berceau. Elle le pose sur le Nil et elle s'en remet entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. Et elle laisse Myriam, qu'on retrouve, Myriam en surveillance. Myriam, elle se cache dans les roseaux, elle surveille le bébé et curieuse bien évidemment de savoir ce que Akadosh Baruch Hu a décidé de réserver à ce petit bébé. Le petit berceau navigue gentiment sur les eaux du Nil infestées de crocodiles et il se rapproche dangereusement du palais du roi Paro. Et qui c'est qui est en train de se baigner à ce moment-là? Bithya, la fille de Paro. Alors, il faut savoir que Bithya, elle avait aussi une échama particulière, hein, bien évidemment, puisqu'elle était en train de se faire le mikvé pour se convertir. Voilà. Il faut savoir que Bithya, aussi une femme extraordinaire, elle avait commencé à s'intéresser au à Israël et comprendre que c'était un peuple. Alors, juste une petite parenthèse, on est rentré en tribu. On est rentré en Égypte en tant que tribu, on est sorti d'Égypte en tant que âme Israël. Le peuple d'Israël s'est construit dans la difficulté et dans l'adversité de l'esclavage d'Égypte. Et d'ailleurs, on dit que l'Égypte, c'est la mère du âme Israël, puisque on a accouché, on est sorti d'Égypte en étant un âme, en étant un peuple, alors qu'on est rentré en tant que tribu. Elle comprend que les gens qu'elle côtoie, qui sont en train, elle assiste à la naissance du Ham Israël de ses propres yeux. Elle comprend que c'est un peuple destiné à de grandes choses. C'est le peuple béni d'Akadosh Baruch Hu, malgré les difficultés, malgré l'esclavage, malgré le fait qu'ils aient été pris à la gorge par toutes ces souffrances. Elle comprend que qu'on est un peuple auquel nous et vous, mes chères sœurs, on appartient. On a la chance d'appartenir à ce peuple et elle décide de se convertir, bien évidemment, sans avertir son père. Donc, elle était en train de faire son mikvé de conversion. Et elle entend des pleurs. Elle s'approche, enfin, elle voit au loin, elle voit un berceau, et elle comprend qu'il y a un bébé dedans, puisque il y a des pleurs de bébé. Elle étend sa main, et le Midrash dit que, ou même Rashi, Hachem, il fait un miracle. Et son bras s'étend, s'étire, jusqu'à ce qu'elle attrape le berceau, sans qu'elle ait besoin de faire d'efforts. Elle attrape le berceau, le ramène vers elle, et elle comprend, il avait une couverture particulière, elle comprend que cet enfant appartient au Ham Israël. Elle décide de l'adopter, et elle décide de l'appeler Moshe. Alors, en égyptien, Moshé, ça veut dire sauver des eaux. On se doute bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a soufflé dans l'oreille le nom de Moshé Rabbeinu. Hein, Moshé, on va pas dire que c'est un nom d'égyptien. Voilà, c'est sauver des eaux, c'est la signification qu'elle a voulu lui donner parce qu'effectivement, elle a sauvé du Nil. Mais Moshé, c'est les lettres, quand on les inverse, même Shin He, quand on les inverse, on sort Hachem. Donc c'est vraiment le Mashiach d'Hachem. D'ailleurs, on dit que le premier libérateur sera le dernier libérateur, que le Mashiach, il aura une étincelle de l'âme de Moshé Rabbeinu et qu'il n'aura pas atteint, il n'atteindra pas la névoie, le niveau de névoie de Moshé Rabbeinu. Il est juste en dessous de Moshé Rabbeinu pour vous dire combien était grand Moshé Rabbeinu. Donc, pendant ce temps-là, Paro continue d'établir son décret maléfique de jeter les enfants dans le Nil et il charge. Alors non, pardon, on revient, on finit avec l'épisode de Bithia et de Moshé. Donc, elle voit, donc Bithia récupère Moshé, elle voit un petit bébé, maintenant il faut le nourrir ce bébé. Elle le présente vers une nourrice égyptienne, il ne veut pas boire le lait. Il tourne la tête, par tous les moyens, il refuse de boire du lait. Entre-temps, on a Myriam qui assiste dans les roseaux à toute la scène. Il refuse de boire le lait. Qu'est-ce qu'elle fait une nourrice? Elle presse son sein et il y a une goutte de lait qui tombe sur la lèvre de Moshé Rabbeinu. C'est très important de savoir ça parce que quand il va y avoir bien 2 ans plus tard l'épisode où Paro va présenter à Moshé 2 plateaux. Il va présenter un plateau avec de l'or et il va présenter un plateau avec des charbons ardents. Du charbon ardent, très très brûlant bien évidemment. Et il va demander à Moshé de choisir. Et Moshé va se diriger instinctivement vers la couronne et Hachem, il va envoyer l'ange Gabriel qui va tirer sa main et qui va le prendre, qui va le pousser à prendre le charbon. Il va le mettre à sa bouche et il va se brûler les lèvres. Depuis à ce moment-là, à partir de ce moment-là, il va bégayer puisqu'il aura la lèvre brûlée. Et en fait, pourquoi il y a eu cet épisode? Parce que comme il y a le lait d'une non-juive qui a touché ses lèvres quand il était tout bébé, Hachem, il a cachérisé cette lèvre avec le feu. Alors, ça paraît comme ça cruel, mais Hachem, il sait exactement ce qu'il fait. Donc, on a notre Myriam qui vient voir Bathia et qui lui dit, regarde, si tu veux, je vais te chercher une nourrice parmi les femmes d'Israël. Parce que ce bébé, c'est un bébé juif. Elle comprend que, donc, Bithia accepte. Alors, déjà, c'est miraculeux. Et en fait, qui elle va chercher Myriam? Elle va chercher Yocheved. Et Yocheved va pouvoir s'occuper de son bébé, le nourrir avec du lait cachère. Et comme ça, Moshé Rabbeinu va rester dans une ambiance de Kedusha. Donc, Paro décide de continuer son projet maléfique de jeter tous les bébés dans la mer, dans le Nil. Et il charge 2 sages-femmes, une qui s'appelle Shifra et une qui s'appelle Pua. Bien évidemment, il se trouve que Shifra, c'est Yocheved, et Pua, c'est Myriam. Voilà, Hachem, encore une fois, qui place ses pions où il faut les placer. Shifra, elle s'appelait Shifra Yocheved parce que Shifra, ça vient du mot l'échapper, améliorer. Donc, Yocheved, elle s'occupait du bébé, elle le lavait, elle le nettoyait, elle le rendait parfait aux yeux de sa maman. Les mamans, il faut se rappeler qu'elles étaient écrasées par la fatigue, écrasées par la douleur de l'esclavage. Donc, elles prenaient les bébés, quoi. Non, elles mettaient un point d'honneur Yocheved à bien entourer, bien nettoyer, le rendre pour qu'il soit le plus beau possible aux yeux de sa maman. Et Myriam s'appelait Poua, qui veut dire faire respirer, ranimer. Et Myriam, elle s'occupait de l'aspect spirituel. Elle leur chantait des chansons. Et j'ose imaginer que sa voix devait être tellement mélodieuse et tellement d'Ekdoucha qu'elle devait insuffler dans la neshama de ses petits bébés. On dit que voilà, les premières paroles qu'ils devaient entendre, c'était des paroles certainement d'Ekdoucha, certainement une voix douce. Et ça leur permettait d'insuffler à ses bébés le meilleur départ pour la vie. Donc, il demande à Shifra et à Pua de s'occuper, de superviser le fait que tous les garçons soient jetés dans le Nil. Elle refuse. elles refusent, elles s'opposent, elles osent s'opposer à Paro, quand même, qui était le roi de tout de l'Égypte, plein de pouvoir, et à l'époque, le roi du monde. Et elles lui disent, écoute, les Juifs, les Bnei Israël, que tu le veuilles ou non, appartiennent au pays. Donc, si tu veux établir un décret pour les Juifs, tu dois établir ce décret pour tout le monde. Même les femmes égyptiennes doivent jeter leur bébé dans le Nil, leur garçon dans le Nil. Alors, Paro, il dit, ah non, c'est pas possible. Il va y avoir une émeute. Eh bien, voilà. Donc, elles ont osé s'opposer à Paro. Et le décret, il a été arrêté. Donc ça, c'est vraiment une partie, vraiment une qualité. Quelle force dans la Neshama de pouvoir s'opposer à Paro. C'est vraiment une force qu'on a, nous, qu'elles nous ont transmise malgré les années. Malgré les années, ça fait 3000 et quelques années. Elles vivent encore en nous. Yocheved et Myriam vivent encore en nous. Quelques mots sur Myriam. Donc Myriam, donc c'est la sœur de Moshe, c'est une prophétesse. Au moment de la sortie d'Égypte, elle dit aux Bnot Israël de prendre un tambourin. Comment ça, elle prend le tambourin? Pourquoi faire un tambourin? Elles étaient tellement persuadées, Myriam et toutes les femmes d'Israël, qu'on allait être délivrées et que, d'une manière extraordinaire, qu'elles avaient déjà préparé le tambourin pour la Géoula. Déjà. Ça, c'est faire preuve d'une émouna et même d'un bitachon incroyable. Enfin, il faut se remettre dans le contexte. On est dans un des moments les pires de l'histoire du Ham Israël, écrasé de fatigue, écrasé par les décrets, écrasé par les Égyptiens qui les traitaient comme des moins que rien. Non, on est tellement persuadés qu'Akadosh Baruch Hu va nous délivrer qu'elles avaient prévu un tambourin. Quand elles sont sorties d'Égypte, elles avaient le tambourin avec elles. Et c'est faire preuve d'une ressource, de ressources incroyables. Quand elles sont sorties d'Égypte, après la sortie de la mer Rouge, quand Moshe Rabbeinu a commencé à chanter Adashir Moshe, elle était la Myriam. Elle était la Myriam avec les femmes. Elle leur a dit, allez, on sort le tambourin. On a espéré à une Géoula extraordinaire. Hachem nous donne la possibilité d'assister à ce à quoi on a espéré. C'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous, mes chères sœurs. On espère et on prie à Kadosh Baruch Hu de toutes les fibres de notre être qui nous envoie des beaux bébés en bonne santé. Tant qu'on s'accroche à cette émouna et tant qu'on s'accroche à ce bitachon, Kadosh Baruch Hu va nous donner la possibilité d'assister et de vivre ce à quoi on a espéré. C'est ça le message qu'on doit prendre dans notre vie en 2024 de Yocheved et de Myriam. Le pouvoir, on a été délivré par les femmes, on sera délivré par les femmes. Alors ça, c'est dans le plan global du Ham Israël. Mais dans notre vie de quotidien de tous les jours, on le prend chez nous. On a cette force dans notre ADN. On a cette force qui coule dans notre veine de Myriam et de Yocheved qui ont dit au Ham Israël, on espère en la Géoula de toute notre force, sans se laisser abattre par les doutes, sans se laisser attraper par les échecs, sans se laisser avoir par le Yetzer Hara. On est tellement persuadé qu'Hachem va nous délivrer, qu'Hachem, il nous a dit, vous avez construit, vous avez fabriqué ce tambourin, je vais vous donner l'occasion d'utiliser ce tambourin que vous avez construit, que vous avez fabriqué quand vous étiez dans le stade de l'espoir et de l'espérance et de la Emouna. Je vais le concrétiser, vous concrétiser un moment dans votre vie pour pouvoir utiliser ce tambourin. Nous, c'est pareil. On lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, Hachem. Peu importe le temps que ça va prendre, tu vas m'envoyer ce bébé. Ou ces bébés, hein? On a confiance en Akadosh Baruch Hu. On fabrique notre Emouna, on fabrique notre Bitachon. Et Hachem va nous donner, quand lui, il aura décidé, quand lui, il aura estimé que c'est le bon moment pour nous délivrer et pour nous exaucer, il va nous dire, ma fille, tout ce que tu as construit, tu as, avec ta Emouna, avec ton bitachon, tu as construit le berceau, tu as préparé tes bras à recevoir ce cadeau que je vais te donner. Et Hachem, il va nous le donner. Elles ont attendu 86 ans, on va dire 210 ans en fonction des Midrashim. Ça a pris le temps que ça a pris, mais elles ont utilisé leur tambourin au moment de chanter Asia Shirmoshe, en ayant assisté à des miracles hors du commun. On ne va pas rentrer dans les détails des diplés et de l'ouverture de la mer Rouge, parce que comme ça, je vous laisse le découvrir avec votre famille Bezrat Hashem le soir de Pessah. C'était impossible. C'était impossible. Ça veut dire celui qui était en Égypte. C'était impossible d'y croire. Celui qui était en Égypte pendant qu'on le frappait, on lui disait « tu dois fabriquer ta paille, tu dois fabriquer ta boue ». Tu lui dis « le Ham Israël va délivrer dans quelques mois », il va te dire « laisse-moi tranquille, j'ai des briques à fabriquer, fous-moi la paix, excusez-moi hein ». Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Quand le pharaon il est mort à un moment donné, le peuple des Égyptiens, ils étaient en deuil. Et donc, tout le monde était occupé à pleurer son pharaon. Les Béné Israël, ils ont profité de ce moment pour crier à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, ils se sont dit, les Égyptiens vont nous voir pleurer. Ils vont croire qu'on pleure pour Pharaon. Mais non, on pleure vers Kadosh Baruch Hu. Ils ont crié un cri tellement fort qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il dit, il a écouté leur détresse. Il a écouté leur souffrance. Et à ce moment-là, tout a basculé. On ne connaît pas le point que Akadosh Baruch Hu veut qu'on atteigne pour nous délivrer. Mais on a confiance qu'il va entendre notre cri. Alors, ce n'est pas forcément un cri de souffrance. Oui, peut-être c'est aussi un cri de souffrance. Oui, c'est peut-être un cri de détresse. Un cri de « j'en peux plus Akadosh Baruch Hu, j'en ai marre de ces piqûres, j'en ai marre de ce protocole ». On peut dire à Akadosh Baruch Hu « stop, j'en ai marre, stop, stop ». Mais en disant ce stop, on lui dit à Kadosh Baruch Hu, stop, parce que je sais que tu vas me délivrer. Et la délivrance vient de toi et de toi seul. Pas les médecins, pas les hôpitaux, pas les piqûres. Oui, on fait notre ishtadlout, oui, oui, oui. Mais c'est toi et toi seul qui va nous délivrer, comme tu as délivré notre peuple lors de la sortie d'Égypte. Chaque épisode, et j'espère qu'on le verra dans d'autres audios, chaque épisode du Ham Israël, de tout ce qu'on a traversé pendant toutes ces années, on peut le prendre à échelle personnelle. Et en fait, on dit que les actions des pères, ce sont des simanim pour les enfants. Ça veut dire maase avot siman habanim. C'est-à-dire ce qu'ils font les pères, on doit nous se fier à eux. On doit s'inspirer d'eux. On doit les recopier parce que c'est eux, ils étaient la perfection. Dans leur vie imparfaite, ils étaient parfaits. Et c'est ça qu'on peut. On peut, dans notre vie imparfaite, atteindre la perfection en se collant à Akadosh Baruch Hu. On peut atteindre uniquement la perfection en se collant de toute notre force à Akadosh Baruch Hu, en cultivant notre émouna jusqu'à atteindre le bitachon. Oui, de se dire qu'on va être délivré alors que le médecin, il dit qu'il y a des difficultés, il y a des trucs, il y a des machins. Lui, reste un homme. Ce n'est pas lui qui a la décision finale, c'est Akadosh Baruch Hu. On écoute. Dis ce que tu as à dire. Oui, effectivement, tu as fait 15 ans d'études. On va te laisser parler. Mais ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi qui décides. Ce bébé, c'est la Neshama qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie. C'est pas ta petite cuisine dans ton laboratoire qui va m'en donner un bébé. Non, c'est Akadosh Baruch Hu, lui et lui seul. Voilà, c'est ça le message que je prends pour moi personnellement, parce que comme je vous ai dit, je suis aussi dans le même, exactement le même cas que vous. Hein. Donc c'est comme ça que moi, je vois qu'on peut s'inspirer de Yocheved et s'inspirer de Myriam, des femmes extraordinaires qui nous... Leur qualité et leur sang coulent dans notre sang et dans notre veine. On est une chaîne ininterrompue depuis ces femmes. On est une chaîne ininterrompue. On est directement, on a le même ADN, on a le même sang. Leur qualité, elles nous l'ont transmise, on l'a dans notre sang, on l'a dans notre ADN. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite Pessah Kasher Vesameach. Je vous souhaite qu'on soit tous délivrés au niveau du Ham Israël et que chacune, dans sa petite vie, elle ait sa délivrance personnelle. Bisous.